BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, il est midi, soyez les bienvenus dans 60 minutes business ici au Carrousel du Louvre depuis le salon BFM Patrimoine, un salon qui intervient dans un contexte bien particulier, des marchés sans dessus dessous, une inflation galopante. Alors voilà les conseils qu'on distille ici depuis ce matin, on va continuer toute la journée. Comment naviguer en eau trouble pour préserver ou faire fructifier son patrimoine? Est-ce qu'on reste sur les marchés actions? Est-ce qu'on se diversifie? Est-ce qu'on travaille l'assurance vie, l'immobilier? Comment est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine intègre cette inflation dont on ne sait pas à quel moment elle va se tarir? Voilà pas mal de questions qu'on va traiter ensemble dans un instant avec nos invités jusqu'à midi et demi. Puis midi et demi, c'est Thomas Schnell qui nous rejoindra, bien sûr, BFM Business avec vous tous les jours. Gros sujet aujourd'hui encore, comment monter sa start-up et comment trouver les bons investisseurs pour la faire grandir. Voilà le programme de 60 minutes business qui commence dans quelques minutes après que Nathan Cocampo nous aura donné les grands titres de l'actualité. Bonjour mon cher Nathan.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission. Emmanuel Macron l'a immédiatement refusée afin, nous dit l'Élysée, que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir. Aujourd'hui et demain, le président de la République rencontre les chefs de parti à l'Élysée. On retrouve Agathe Lambré sur place.
Le chef de l'État ne cède donc pas à la pression de ceux qui, en interne, souhaitaient qu'il évince sa première ministre. Emmanuel Macron conserve Elisabeth Borne. Et concrètement, les ministres qui ont perdu aux législatives vont rester encore en place. La première ministre réunira son gouvernement cet après-midi. Et le temps de la recomposition du gouvernement viendra plus tard, m'expliquait un proche du chef de l'État. En attendant, Emmanuel Macron veut montrer qu'il consulte. Pendant 2 jours, il va recevoir les chefs et les figures de parti. Pour le chef de l'État, il s'agit de se montrer ouvert, de mettre aussi les oppositions face à leurs responsabilités. Mais ces rencontres sont surtout un symbole pour Emmanuel Macron. Il s'agit d'envoyer un message aux électeurs, une posture d'humilité, de leur dire qu'il a compris, qu'il a entendu les résultats cinglants de dimanche soir. Emmanuel Macron, qui était pressé par certains dans son entourage de s'exprimer alors qu'il était resté très silencieux depuis le second tour.
Et alors qu'en France, le projet de loi pouvoir d'achat sera bientôt discuté à l'Assemblée, à Londres, on fait grève, la grève la plus importante depuis 30 ans. Le métro londonien et les trains du pays sont en grande partie paralysés. Les salariés britanniques du secteur ferroviaire réclament des hausses de salaire. Dans ce contexte inflationniste, l'énergie est toujours au centre des préoccupations. Alors que le robinet russe s'est sérieusement refermé la semaine dernière, Engie se veut rassurante et annonce ce matin ne pas avoir de difficultés d'approvisionnement en gaz de ses clients. Engie qui poursuit sa politique de diversification d'approvisionnement en gaz, notamment avec l'Algérie et la Norvège. Le taux de remplissage des stockages de gaz approche les 60%. Concernant le pétrole boycotté par l'Union européenne et les États-Unis, la Russie devient le premier fournisseur de la Chine. Les importations de pétrole russe y ont bondi de 55% en mai. Les détails de Raphaël Couder.
Plus de 8 millions de tonnes de pétrole russe ont été livrées en Chine le mois dernier. Une hausse de 3 millions de tonnes qui fait désormais de la Russie le premier fournisseur de pétrole du pays, une place habituellement occupée par l'Arabie Saoudite. Face au boycott des Occidentaux, Moscou compte en effet sur la puissance économique de la Chine pour éviter l'isolement économique et lui accorde des prix réduits pour son pétrole brut. Le géant asiatique en a donc profité pour augmenter ses achats malgré une demande intérieure freinée par les restrictions liées au Covid. Ce soutien mutuel va permettre à la Russie de compenser la baisse de ses exportations vers les pays occidentaux. En mai, l'Union européenne a en effet déjà réduit ses importations d'un demi-million de barils par jour et les 27 ont décidé de se passer de 90% du pétrole qu'ils achètent en Russie d'ici à la fin de l'année. La semaine dernière, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont réaffirmé leur volonté d'élargir la coopération économique entre leurs deux pays dans le domaine énergétique, mais pas seulement. Le mois dernier, tout produit confondu, les importations chinoises en provenance de Russie ont elles aussi bondi de 80%.
Beau contrat en perspective pour Airbus. EasyJet annonce qu'elle va acquérir 56 A320 Neo. La compagnie aérienne à bas coût qui annonce aussi convertir une commande de 18 A320 Neo en une commande de 18 A321 Neo pour un prix catalogue autour des 6 milliards d'euros. Plus largement, un vent d'optimisme souffle de nouveau sur le secteur aérien. L'Association internationale du transport aérien tient son assemblée générale à Doha, au Qatar. Le trafic reprend un peu partout et les compagnies aériennes commencent à renouer avec les bénéfices. Mais la prudence reste toutefois de mise. Jean-Baptiste Huette.
Oui, C'est vrai, cette année encore, le secteur devrait perdre 9,7 milliards de dollars. Mais c'est presque une goutte d'eau comparée aux 137 milliards perdus en 2020. Le retour à la rentabilité est même annoncé pour l'année prochaine. En attendant, les compagnies recommencent à tourner à plein régime. Globalement, le nombre de passagers atteint 83% du niveau d'avant-crise. Du côté des comptes, ça va mieux. Les professionnels espèrent retrouver cette année plus de 93% de leur chiffre d'affaires de 2019, aux alentours autour de 782 milliards de dollars. La plupart des signaux sont au vert, explique IATA. Une forte demande des passagers qui ont économisé pendant la crise, une levée quasi généralisée des restrictions de voyage, un chômage faible, tout cela contribue à nourrir la reprise. Pas de triomphalisme toutefois. Avec la pandémie, le secteur a appris la prudence. La guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse du prix du kérosène, la peur d'un nouveau variant, la Chine qui reste fermée et des pénuries de pilotes. Voilà autant de facteurs qui poussent les professionnels à garder la tête froide.
Et c'est un été très prometteur qui s'annonce pour les professionnels du tourisme en France. Même si les Chinois manquent toujours à l'appel, les étrangers sont clairement de retour. Bonjour Pierre Kupferman, les touristes étrangers qui entendent bien ne pas se priver.
Oui, selon une étude menée par l'Institut GFK pour les cartes Visa, les sommes que les touristes étrangers ont prévu de dépenser cet été sont vraiment conséquentes. Près de 7650 euros pour les Américains, évidemment, vol compris. Plus de 2300 euros pour les Allemands, 1740 euros pour les Britanniques, le tout pour un séjour d'une durée moyenne de 10 jours. Alors, ces dépenses, elles se répartissent de la façon suivante. Vous avez la moitié, à peu près, pour le voyage et l'hébergement, 16% pour les restaurants, et presque autant pour le shopping. Alors le shopping, c'est à la fois les courses dans les magasins de prêt-à-porter, les boutiques de luxe et les boutiques de souvenirs.
Des touristes qui viennent pour visiter Paris, mais pas seulement.
Oui, effectivement. Quand on leur demande si d'autres destinations en France sont à leur programme, et si oui, laquelle ? Eh bien, c'est Marseille qui arrive en tête, juste devant Disneyland, Nice et Versailles. Bordeaux n'est pas dans le top 5, puisque Bordeaux là, est dépassé, devancé par Lyon. Et pour se rendre dans leur deuxième lieu de destination, les touristes étrangers ont une préférence assez nette pour le train, qui arrive loin devant l'avion.
On sait aussi qu'en temps normal, le tourisme contribue fortement au PIB de la France. Est-ce qu'on peut espérer battre un record cette année ?
Alors là, c'est un peu tôt pour le dire. Est-ce que cet automne, un nouveau variant du Covid ne va pas mettre à l'arrêt les activités touristiques, au moins en partie ? Trop tôt pour le dire, mais il y a aussi un autre élément qui entre en jeu, c'est le fait qu'il manque les touristes asiatiques, en tout cas une partie d'entre eux. Ce qu'on peut espérer, c'est se rapprocher du niveau de 2019, donc l'année qui a précédé la pandémie mondiale de Covid. On était quasiment à 64 milliards d'euros, ça c'est vraiment l'apport des touristes étrangers au PIB de la France. Pour mémoire, l'INSEE nous dit qu'on était à 33 milliards en 2020.
Merci Pierre, et c'est l'heure de faire un point sur les marchés avec Antoine Larigaudry depuis Euronext. Bonjour Antoine. Antoine, un marché calme et une tendance très positive. Bonjour. Et la reconquête des 6000 points sur le CAC 40.
6012 points, effectivement, on sort d'une semaine un petit peu compliquée. On la laisse derrière nous, donc à 6012 avec une hausse d'1,57%. Notez les volumes d'échanges, vous le disiez, le marché est calme, c'est vrai. On n'est même pas à 700 millions d'euros d'actions négociées à l'heure actuelle. Pourtant, hier, on avait l'excuse que Wall Street était fermée. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y aura cotation du côté de la place américaine, mais les investisseurs sont toujours extrêmement prudents. On a une hausse d'1,17% pour l'Eurostoxx 50. Le DAX à Francfort prend 1%. À noter que les taux se sont légèrement détendus sur le marché obligataire, sur les dettes 10 ans. On a une dette française qui est à 2,3%, 1,75 pour la dette allemande. Ça s'est en revanche tendu du côté des prix du pétrole avec un baril de Brent qui reprend 3 $ sur 24 heures. On est à 116 $ à nouveau et 110 pour le baril de brut léger américain. Dans un contexte un petit peu plus général de regain sur les matières premières, et d'ailleurs ça profite à beaucoup de valeurs qui y sont liées. Saint-Gobain qui gagne 4,16% à 45,80 €. 81. ArcelorMittal plus 3,10, on est à 25,28 €. Mais à noter aussi des valeurs techno. Worldline gagne 4% à 36,96 €. Des valeurs bancaires aussi. Crédit Agricole plus 2,79 € à 9,46 €. Ou encore le luxe qui participe à la hausse. Plus 2,69 € pour Kering. On est à 497,55 €. Et on dégage quelques valeurs défensives. Mais enfin, vraiment, Sanofi qui perd 0,3% à 95,31 €. Carrefour moins 0,3 à 18,57 €. Et Danone moins 0,15 à 51,87 €. À noter Valneva, toujours en très grande forme après sa très forte hausse d'hier. Ça continue après l'annonce de l'entrée au capital de Pfizer. Valneva qui prend 17,9% à 12,10 €. Le CAC donc plus 1,54, 6011 points. Du côté de l'euro face au dollar, on est toujours solidement au-delà d'un 0,5, 1,0561. Et le Bitcoin qui reprend un petit peu de terrain à 21 000 $.
Merci Antoine, et on retrouve dans un instant Guillaume Paul en direct du sommet BFM Patrimoine au Carrousel du Louvre.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Allez, midi un quart, on est de retour. Oui, effectivement, au salon BFM Patrimoine, ici en direct du Carrousel du Louvre, pour parler avec nos invités de l'environnement de marché qui est ce qu'il est. Vous le savez, évidemment, des marchés très très chahutés, ce contexte inflationniste dont on ne sait pas véritablement comment il va évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Et on voulait continuer la conversation qu'on a ici depuis ce matin, c'est-à-dire vous donner des conseils pour gérer au mieux votre patrimoine. On va parler tout ça avec nos invités. Bérangère Blazic qui est avec nous. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Bienvenue, directrice de la distribution France Benelux et pays nordiques chez Franklin Templeton. Et puis Benoît Lombard qui vient aussi nous voir régulièrement. Bonjour Benoît.
Bien. Bonjour Guillaume.
Président du groupe Laplace. Comment on va dire ça, sportif en ce moment pour les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de volume de conseils, comment ça se passe en ce
chahuté
moment,
chahuté, oui. Des marchés qui sont chahutés, des marchés actions chahutés, des marchés obligataires chahutés, ouais. Des marchés immobiliers qui risquent d'être chahutés, et donc plus que jamais l'épargnant a besoin de conseils, il se tourne vers nous, il faut être présent, il faut être pédagogique, il faut compenser le déficit de culture financière que malheureusement trop de nos compatriotes ont, on en a beaucoup parlé à saison 7.
Certains intervenants disent on bosse plus, on donne plus de conseils aujourd'hui paradoxalement qu'au début du Covid, c'est vrai ou pas? Ou c'est au moins aussi soutenu?
Oui, alors la période Covid quand même a été une période où on était très présent, hein, ouais. Et ça les clients ils sont sensibles. Et évidemment quand tout se passe bien, c'est pas là où naturellement on a besoin de maximum de conseils, c'est quand ça se passe mal qu'il faut être là. Et puis il faut pas hésiter à les appeler, il faut pas hésiter à les éduquer, il faut pas hésiter à leur expliquer qu'à l'instant T, il se peut qu'il y ait des chahuts, il se peut qu'il y ait des soubresauts dans l'évolution de leur épargne, mais que si on respecte les principes fondamentaux que sont l'horizon de gestion, l'appétence au risque, l'horizon au terme duquel on a besoin des disponibilités qui sont à l'instant chahutées, et si on respecte bien cette orthodoxie-là, il n'y a pas de crainte à avoir.
Bérangère, vous me disiez la même chose quand on a préparé cette interview. On est dans des cycles de marché compliqués, on a déjà connu, on ne tombe pas de l'armoire, on connaît. Donc on sait faire face. Est-ce que vous savez faire face en ce moment,
Bérangère? Ah oui, on sait faire face. Mais en effet, il est super important d'être au plus proche des clients. En ce qui nous concerne chez Franklin Templeton, ce sera plus auprès des conseillers en gestion de patrimoine pour nous assurer qu'ils ont les bonnes informations sur nos produits déjà, qui eux aussi sont chahutés en ce moment. Il faut être transparent.
C'est vrai.
Et puis aussi sur comment faire face dans les marchés, quelles sont les futures idées d'investissement. Mais en effet, avant ça, on doit revenir à la base qui est que si on a bien travaillé avant avec son client, qu'on a construit des portefeuilles avec des attentes raisonnables, avec le bon horizon d'investissement, avec le bon degré de diversification, c'est ça. Il ne faut surtout pas paniquer et au contraire peut-être aujourd'hui choisir les futurs points d'entrée plutôt que de sortir massivement, ce qui serait une grosse bêtise.
On va prendre vos idées parce qu'on est aussi là pour pêcher vos idées en l'espace de quelques minutes. Question que je vous pose à tous, ils vous demandent quoi vos clients aujourd'hui concrètement? Est-ce qu'il y a des thématiques, des préoccupations, des questions qui repassent, qui reviennent plus souvent que d'autres à l'heure actuelle?
Oui, la hausse des taux, on en parlait un tout petit peu avant avec Benoît, la hausse des taux, les niveaux d'inflation sont évidemment des grandes craintes, ça pèse beaucoup sur les...
Mais c'est des questions sans réponse.
Mais après ça dépend ce qu'on cherche comme réponse, parce que de nouveau, on n'a jamais eu de boule de cristal.
C'est vrai.
Des crises, on en a déjà traversé de nombreuses. Les marchés, finalement, sont clairement en forte baisse, mais c'est pas non plus les pires baisses qu'on ait connues historiquement. Donc on connaît tout ça et on sait qu'en général, si on travaille bien pendant ces périodes-là pour peut-être travailler sur le coût moyen d'achat, pour rediversifier des portefeuilles et pour trouver les points d'entrée, il ne faut pas de nouveau paniquer. Et il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, autant sur les portefeuilles obligataires que sur les actions, que même si on préfère être en général sur des portefeuilles diversifiés.
Et bon, on va y venir dans un instant en piste. Même question, qu'est-ce qui vous pose comme question précise vos clients aujourd'hui?
Nos clients, ils veulent. On n'a pas de boule de cristal, c'était rappelé. Mais...
Ou alors ils arrivent, pardon, en posant la question générale, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout dépend. Là, on revient à l'horizon de gestion, à l'appétence au risque, aux besoins de disponibilité. Et puis, on explique comment sont construits les portefeuilles que nous conseillons. Et là, on rentre dans le degré de l'analyse. Je vous donne un exemple très très simple. Sur le marché obligataire, il y a une forte baisse. Hein, on en discutait off avec Bérangère. On est entre moins 3, moins 27 depuis le début d'année sur les produits obligataires. Oui. C'est quand même un bain de sang, un crack obligataire énorme, mais on n'en parle peut-être pas assez. Et bien là, il y a peut-être des points de rentrée pour demain. Et puis si on a des fonds d'obligations datés, à l'instant T, supporté à moins 12, à moins 13, peu importe, c'est peut-être justement une raison de rentrer, si tant est qu'on ait l'horizon de gestion qui correspond. Moins 12, moins 13, sur un fonds daté de 2017, encore 5 années, et ben là justement il y a un upside, il y a un gain à avoir, et peut-être réinvestir sur ces produits-là à un moment donné, où c'est chahuté.
J'ai l'impression que vous freinez les ardeurs de ceux qui voudraient sortir un peu précipitamment. Ça fait partie de la culture du moment aussi.
Il ne faut pas céder à la panique pour ne pas avoir la porte de saloon. On rentre, on sort au mauvais moment et on rentre au mauvais moment.
Et c'est le pire. Bérangère, pareil, même question.
Oui. Et on parlait de la culture financière tout à l'heure. C'est toujours le gros défi de ce marché français où on doit continuer d'améliorer la culture financière. Et c'est vrai que le réflexe de base, c'est la panique. Ouais. C'est on sort, on comprend pas, donc on sort. On n'avait peut-être pas été assez convaincu ou on était un peu endormi par les hausses passées. Et en effet, c'est maintenant qu'on doit réfléchir bien autrement.
Vos clients, ils sont effrayés comme tout le monde par cette inflation galopante dont on ne sait pas comment elle va évoluer, qui érode potentiellement une partie du patrimoine. Mais comment vous l'intégrez, cette inflation, dans vos façons de faire, dans vos calculs, dans vos recommandations? Je veux dire, c'est une inconnue pour tout le monde, l'inflation aujourd'hui, finalement.
Alors, déjà, il y a un point qui est certain. C'est que si on reste investi sur le fonds en euros garantis des compagnies d'assurance, là, du coup, on perd en pouvoir d'achat. On aura moins de 1% cette année de rentabilité net.
Là, ça s'érode forcément.
Tandis qu'on aura un peu plus de 5,2, 5,7 d'inflation sur un an glissant. Mm. Bon. Donc là, on perd l'argent. Donc, il ne faut pas rester là-dessus. Donc, il faut au contraire aller vers des actifs qui, à l'instant T, parce qu'il y a des soldes, on a des soldes sur le marché actions et les soldes ne sont peut-être pas terminés. Je ne dis pas, mais peut-être avoir différents points d'entrée sur le marché des actions. On entre moins 20 et moins 30 depuis le début d'année sur le marché des actions. Ouais. Revenir à des fondamentaux, travailler avec Franklin Templeton, pour prendre cet exemple ici présent, avec les sociétés de gestion partenaires, pour avoir leur lecture d'extrêmes professionnels, toujours avertis sur les marchés. Et puis nous, on est quoi? Cette vecteur, cette courroie de transmission entre des professionnels qui sont sur les marchés tous les jours et puis des particuliers qui sont en attente de réponses que nous n'avons peut-être pas de manière certaine, mais qui, si jamais on se diversifie, donne du sens par rapport, là encore, à l'horizon de gestion, l'appétence au risque, on en a parlé en début de cette émission.
Qu'est-ce qu'on regarde alors, Bérangère? On parlait du marché action. Combien vous me dites depuis le début de l'année, Benoît, sur le marché?
Entre moins 20 et moins 30 sur
le marché. Entre moins 20 et moins 30. Alors voilà, on est encore plus sélectif. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bérangère, concrètement?
Donc, si on reste sur l'exemple du marché action. Si on reste sur cet exemple, parce que bien sûr, on reste sur le marché. Pour moi, si on a décidé d'y entrer, c'est qu'on en avait besoin. donc aujourd'hui, dans les grands exemples que nous aimons mettre en avant, on tourne toujours autour des thématiques. Il y a une raison un peu logique qui est qu'en général, l'investisseur comprend mieux pourquoi il investit s'il investit sur un investissement thématique. Mais il y a aussi une vraie logique de tendance séculaire qui doit aider à la croissance à long terme de ces titres. Et dans les thématiques, il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Puisque certaines des thématiques plus orientées technologie, innovation, ont été particulièrement pénalisées et heurtées par les derniers mois.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Voilà, c'est là qu'on s'approche des moins 30. Et donc, si on est toujours convaincu qu'il y avait une bonne raison d'entrer sur les actions technologiques, mais pourquoi pas utiliser maintenant comme un point d'entrée. En revanche, pour les investisseurs qui se disent finalement ce niveau-là de baisse, ce niveau-là de volatilité était un peu trop important pour moi, alors on a d'autres thématiques qui sont tout aussi tendance de long terme et qui est prometteuse pour les marchés actions, qui vont avoir un biais qu'on dit plus value, donc un peu plus défensif par rapport au reste du marché actions. Et chez nous, c'est à ce moment-là, sur les thématiques du changement climatique, mais avec un biais value, ce qui est assez spécifique chez nous, ou sur les infrastructures cotées, où on voit qu'on peut travailler et participer à la croissance des nouveaux marchés, aussi parfois en aidant un monde qui se transforme au niveau transition écologique, mais avec une façon d'arriver sur le marché actions qui est plus défensif. Ça reste des actions, mais c'est plus défensif.
Ça reste des actions, mais c'est plus défensif. L'immobilier, on n'en a pas parlé, là. Comment est-ce qu'on travaille l'immobilier? Est-ce qu'on le travaille autrement dans le contexte actuel par rapport à il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans?
L'immobilier, on a un vrai problème, déjà. Ça fait 20 ans que le marché ne fait que de croître. Oui. Alors, l'année dernière, ça s'est un peu calmé. Ça va naturellement être pénalisé. On parlait de la hausse des taux. La hausse des taux, ça va coûter cher aux États, hein. Dette publique qui va se renforcer. Je rappelle qu'on est à 112% du PIB en dette publique. Ça va coûter cher aux particuliers qui vont devoir demain emprunter à des taux qui sont plus élevés, donc avec une capacité de remboursement sera obérée, et donc un impact sur des prix immobiliers qui sont plus hauts. Donc attention sur l'immobilier. Aujourd'hui, on est en fin de cycle haussier. On a une hausse des taux sur lequel est adossé l'immobilier. Donc il s'agit d'être là encore prudent.
J'ai l'impression à vous entendre qu'il n'y a pas de fatalité à l'érosion de son patrimoine dans le contexte actuel. Non, il n'y a pas de fatalité. On peut trouver le moyen de se retourner, finalement.
Ah, mais complètement. Oui. C'est, de nouveau, on a connu ça de nombreuses fois par le passé. C'est pour de nouvelles raisons, aujourd'hui. Un post-Covid et une invasion par Poutine de l'Ukraine. Et puis, on verra ce qui se passe par la suite. Ce sont de nouvelles raisons. Mais on connaît exactement ces situations-là. Donc, si on travaille bien avec toute l'expérience qu'on a, et si on écoute bien son conseiller en gestion de patrimoine, je pense qu'on peut gagner en faisant aussi, pas forcément de tort à la planète, en investissant aujourd'hui.
Il n'y a pas de fatalité.
Il n'y a pas de fatalité. Et puis, les clients nous écoutent. Hein. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, le monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont cru de 80% en 10 ans. Ouais. Ça, c'est quand même un point qui est important. On représente 18% de l'épargne des Français. Plus de 15% de croissance annuelle depuis 10 ans. On collecte plus de 10% de croissance annuelle en stock. Donc, les clients viennent nous voir. Et pourquoi? Parce qu'on est pérenne. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je dois être à ma 16e crise. Alors, j'attends pas la 17e, mais elle arrivera aussi.
Mais justement, puisque vous me parlez d'épargne, parce qu'on parle de tout à l'heure de la façon de sécuriser son patrimoine, le préserver, au mieux le préserver. Mais il y a toutes celles et ceux qui pourraient être tentés de venir sur les marchés, venir investir sur tel ou tel support, et qui se pose des questions. Et là, je reviens à cette épargne dont vous parlez, cette épargne qui s'est accumulée nettement pendant le Covid.
142 milliards.
Dont on se demande encore comment est-ce qu'on va faire pour la faire ressortir des bas de laine, des comptes courants. Mais ça reste un grand défi. C'est pas nouveau,
première histoire. On l'a dit, ne pas rester sur livret A quand on est à 1%, ne pas rester sur les fonds garantis inférieurs à 1%, investir au fil, et bien là, il y a des portes d'entrée. On ne va pas attendre, alors qu'on est en période de solde, que la fin des soldes soit terminée.
Non, mais l'époque n'est plus ce qu'elle était il y a un an ou deux, Benoît. C'est ça que je veux dire.
Mais c'est aussi bien. Moi, quand je voyais les marchés constamment augmenter depuis la fin, depuis 2 ans, depuis la période juste après les 2 premiers mois du Covid, ça m'inquiétait à un moment donné. Quand rentrer, c'est peut-être pas le meilleur moment. Aujourd'hui, on a des portes de rentrée. Il faut rentrer progressivement, en fonction de son origine de gestion, en fonction de son appétence au risque, en fonction du moment où on a besoin des disponibilités qu'on a épargnées pendant cette période du Covid.
Bérangère.
On le dit magnifiquement bien. Ce sont les soldes.
Merci, Bérangère.
On a beaucoup trop d'argent sur les livrets d'épargne et sur, pour moi, les fonds euros. On continue d'avoir ce défi d'éducation financière. On doit démystifier, dédramatiser, dédiaboliser parfois le monde de la finance pour l'épargnant.
On en est encore là aujourd'hui en France en 2022, véritablement.
Les chiffres le disent. Finalement, un portefeuille traditionnel en France, c'est beaucoup de fonds euros, c'est beaucoup d'immobilier. Et après, quand on diversifie, c'est des produits structurés. Ça m'a toujours énervée. Je pense qu'il y a moyen de créer un portefeuille bien plus efficient. Et ça commence par avoir bien travaillé avec son conseiller, lui faire confiance, trouver le bon conseiller, puis lui faire confiance et travailler avec lui sur nos besoins à nous. Et je reviens à ce que je disais au début, si on a des attentes raisonnables qu'on a bien identifiées, on peut créer un portefeuille et une certaine trajectoire d'investissement qui sera totalement bénéfique pour nous en traversant des crises. Mais on n'investit pas pour l'année prochaine, normalement. En tout cas, pas sur les actions ou les produits obligataires.
Ça fait partie des choses qu'il faut expliquer à toutes les générations, y compris les nouvelles générations qui arrivent, qui peuvent être un petit peu émoussées par ce qu'elles voient sur certains autres marchés.
C'est pour ça qu'on a...
Cette éducation, c'est un problème, ça fait longtemps qu'on en parle.
Ça fait partie de l'éducation financière. Nous, je vous disais, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Je suis à la 3e génération de mes clients. Donc, le grand-père est client, le petit-fils est client. Et qu'est-ce qu'on fait? On les éduque. On passe du temps avec eux, on leur apprend et on apprend progressivement. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, on est capable d'aller chercher du risque qu'ils n'auraient peut-être pas cherché s'ils n'avaient pas eu cette éducation financière que l'aura délivrée, que les CGP l'auront délivrée.
Qu'est-ce qu'on fait pour parfaire cette éducation, Bérangère?
Parce
que c'est un vrai sujet aujourd'hui.
Ça fait longtemps que c'est un sujet. Il faudra un jour que quelqu'un d'autre s'en empare. Mais nous, ce qu'on fait modestement chez Franklin Templeton, c'est qu'on a créé la Franklin Templeton Academy. On en a beaucoup parlé sur BFM déjà. On l'a créé en 2007.
Et ça consiste à respecter le pitch.
C'est un programme de différents modules pédagogiques sur différents sujets qui tournent autour de notre monde. Donc on va aussi bien expliquer pourquoi diversifier un portefeuille et qu'est-ce que c'est que la diversification, que démystifier la volatilité, que travailler sur mieux comprendre le marché des actions ou le marché des obligations. Et on offre ces formations-là. Donc dans un premier temps, on les a développées avec les conseillers en gestion de patrimoine pour eux. Et puis depuis, ça s'est développé et décliné en différents formats. Et on a des formats de plus en plus orientés directement pour l'investisseur final, notamment avec les nouvelles technologies qui nous permettent de travailler autrement au niveau des formats et des contenus. Et je pense que voilà, c'est notre pierre à l'édifice, mais je pense que toute l'industrie doit y travailler encore davantage, et je pense que c'est à l'école que ça devrait commencer, mais c'est un autre sujet.
Ça devrait commencer à l'école, vous êtes d'accord avec ça, Benoît?
Complètement. Donc le déficit d'éducation financière, il naît aussi du déficit de formation académique, y compris pendant les périodes de lycée que nous avons en France. Mais ça, on le sait depuis de nombreuses années. On essaie de pallier ça. Donc on le fait en one-to-one. Nous lançons, nous, une académie vraisemblablement dans le second semestre pour justement former.
Tout le monde lance son académie, ça y est.
Pour former collectivement les enfants, les petits-enfants de nos plus anciens clients.
Bon, et vous êtes là, droit dans la tempête, du conseil personnalisé toujours pour toutes celles et ceux qui veulent au moins préserver, si ce n'est faire fructifier leur patrimoine. Merci à tous les deux.
Merci Guillaume.
Merci de passer nous voir. Bérangère Blazic, directrice de la distribution France, Benelux et Pays Nordiques chez Franklin Templeton, et puis Benoît Lombard, président du groupe La Place. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir
merci
ce midi.
À vous.
Merci. À très vite, avec plaisir. Midi 29, on marque une petite pause. Nathan Cocampo vous redonne les grands titres. Et puis on revient avec Thomas Schnell, BFM Business avec vous jusqu'à 13h comme tous les jours sur BFM Business. On répond à vos questions et on donne la parole même ici à celles et ceux qui recrutent. À tout de suite.
Bonjour à tous. La première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission ce matin. Emmanuel Macron l'a immédiatement refusée afin, nous dit l'Élysée, que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir. Aujourd'hui et demain, le président de la République rencontre les chefs de parti à l'Élysée. Alors qu'en France, le projet de loi pouvoir d'achat sera bientôt discuté à l'Assemblée, à Londres, on fait grève, la grève la plus importante depuis 30 ans. Le métro londonien et les trains du pays sont en grande partie paralysés. Les salariés britanniques du secteur ferroviaire réclament des hausses de salaire. Dans ce contexte inflationniste, l'énergie est toujours au centre des préoccupations. Alors que le robinet russe s'est sérieusement refermé la semaine dernière, Engie se veut rassurante et annonce ce matin ne pas avoir de difficultés d'approvisionnement en gaz de ses clients. Engie qui poursuit sa politique de diversification d'approvisionnement en gaz, notamment avec l'Algérie et la Norvège. Le taux de remplissage des stockages de gaz approche les 60%. Beau contrat en perspective pour Airbus. EasyJet annonce qu'elle va acquérir 56 A320 Neo. La compagnie aérienne à bas coût qui annonce aussi convertir une commande de 18 A320 Neo en une commande de 18 A321 Neo pour un prix catalogue autour des 6 milliards d'euros. Et on a appris ce matin que l'autorité de la concurrence accepte les engagements proposés par Google dans le dossier des droits voisins et qu'elle clôturait les procédures ouvertes contre le géant américain du numérique dans ce dossier. Une procédure qui s'arrête et une autre qui commence. L'autorité enquête désormais en Allemagne sur Google Maps en raison de pratiques restrictives. Et avant de conclure ce journal, un petit tour sur les marchés. Le CAC est en hausse de 1,65% au-dessus des 6011 points. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul pour la suite de 60 Minutes Business.
60 Minutes Business, BFM Business avec vous.
Allez, midi 32, on est de retour ici au Carrousel du Louvre, 4e édition du salon BFM Patrimoine, toute la journée en direct sur BFM Business. C'est l'heure de BFM Business avec vous et avec Thomas Schnell aujourd'hui. Bonjour mon cher Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bon, on rappelle ici comme ailleurs, hein, Thomas, les modalités, vous les connaissez évidemment pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, at bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com et tout ça, on le rappelle bien sûr, c'est totalement gratuit. On est ici à BFM Patrimoine. De quoi est-ce qu'on parle, Thomas ?
On va se demander aujourd'hui à quoi tient le succès d'un entrepreneur aujourd'hui. Comment réussir sa start-up ? Avec nous, un chasseur de tête expérimenté dans les métiers de la tech, Pierre Aussure. Bonjour.
Bonjour Pierre Aussure, prenez le micro.
Alors, voilà. Prenez le micro pour parler, effectivement.
Ça marche, là, oui.
Ça marche mieux comme ça. Pierre Aussure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du cabinet Ivy, cabinet de chasseurs de tête, cabinet Ivy, qui délivre chaque année son prix, notamment pour les start-upers dans la tech. Alors, on va essayer de dresser le panorama. C'est un sujet complexe. On pourrait en écrire un livre. À quoi tient le succès d'une start-up aujourd'hui, selon vous?
Je pense que, s'il fallait résumer d'un mot, cela tient à son créateur, son fondateur, et à la personnalité du fondateur.
Ouais.
Il y a un certain nombre de caractéristiques que partagent tous les fondateurs que je connais, sur lesquels j'ai centré le livre que j'ai publié. Ils sont proactifs, ils ont de l'humilité, ils savent faire adhérer autour d'eux une équipe, ils peuvent se remettre en cause. C'est ça qui est
fondamental. Il faut qu'un patron sache se remettre en cause. C'est oui. Bien, même lui.
Et donc, il débute toujours sur un concept fondateur. Il n'hésite pas à pivoter à partir de ce concept de base parce qu'ils font des itérations et ça ne marche pas toujours du premier coup.
Et on peut en tirer beaucoup de leçons. On va commencer par des témoignages et des questions concrètes que nous ont adressées nos auditeurs. Pour assurer la réussite de ma start-up, dois-je obligatoirement avoir un bagage important? On parle là d'une formation peut-être ou des contacts, des associés, des partenaires peut-être. Est-ce que c'est indispensable?
Je pense qu'il n'y a pas de règles absolument indispensables. Dans les 12 biographies que j'ai écrites, il y a un des 12 entrepreneurs qui n'avait pas fait d'études parce qu'il avait eu un accident important, qui d'ailleurs l'a aidé à créer son entreprise. Il était passionné de vélo et il était cloué au lit pendant un an. Et il a pris cette occasion pour mettre en place cette start-up qui aujourd'hui s'appelle Altrix et a intégré le groupe Decathlon. Donc il n'y a pas de règles. Sauf que si on regarde sur 20 ans, on voit qu'il y a quand même une augmentation du nombre de diplômés et de bons diplômés, entre guillemets, parmi les start-upers.
Donc en France, il y a des formations qui peuvent nous permettre effectivement...
Alors il y a des formations, effectivement, bon, les plus célèbres, c'est celle d'HEC Entrepreneur, mais même chose à HEC, à Sciences Po. Enfin, c'est pas la peine de faire une de ces écoles les plus prestigieuses, mais il faut remarquer qu'il y a un niveau d'éducation nettement supérieur aujourd'hui à ce qu'il y avait il y a 20 ans.
Pour réussir sa start-up, il faut donner beaucoup de soi, encore plus peut-être quand on n'est pas issu d'une grande formation. Est-ce qu'on peut concilier aujourd'hui le travail à haute intensité auxquels sont soumis tous les entrepreneurs, et la vie de famille?
Écoutez, tous ceux que je connais savent concilier au prix de règles qu'ils se fixent, qu'ils fixent dans leur couple, puisqu'en général, moi je connais beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils vivent en général en couple. Ils ont même eu des enfants après avoir créé leur start-up. Certains même créent en couple. Je pense en particulier à Frishti, racheté récemment par Godzilla. Quentin Vacher et son épouse Julia ont créé ensemble et ont eu, je crois, 2 enfants pendant les 7 premières années de leur entreprise.
Comme quoi c'est possible.
C'est possible.
On est au sommet BFM Patrimoine. On a lancé un sondage sur les réseaux sociaux. Quel est le critère le plus important pour investir dans une start-up? Alors, nos auditeurs nous ont répondu. Pour 35%, c'est la pérennité du modèle et les perspectives d'innovation à 33%. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour cerner le projet et le potentiel de croissance d'une start-up si on souhaite y investir dedans?
C'est très compliqué et je conseillerais à quelqu'un qui n'est pas spécialiste de bien s'abstenir d'investir dans une start-up. Il faut, si on est intéressé par l'entrepreneuriat, investir dans des groupes de start-up, souvent proposés par des fonds ou par la BPI, mais surtout pas investir dans une start-up. Et donc, il ne sert à rien d'étudier le potentiel de telle ou telle start-up, puisqu'en gros, sauf à être spécialiste, on ne peut rien en déduire de concret et d'utile.
Difficile donc de calculer. On a Camille qui nous a écrit. Elle a été approchée par un investisseur, justement, qui souhaiterait financer ses projets de développement. Il a fait une offre de participation, mais elle aimerait pouvoir évaluer le prix de son entreprise aujourd'hui. Quelle méthode est-ce qu'il vaut mieux choisir?
Pour toutes les entreprises, qu'elles soient start-up ou pas, il y a plusieurs méthodes, 3-4 grandes méthodes. Pour la vente des ETI, la méthode la plus souvent appliquée, c'est celle du multiple qu'on applique à l'EBITDA en anglais ou à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Donc selon le secteur, il y a un multiple qui est couramment accepté. Et selon la période, le multiple est plus ou moins important. Je pense qu'en ce moment, le multiple doit avoir tendance à baisser. Quand les perspectives sont bonnes, le multiple s'accroît. Et lorsque la start-up est très prometteuse, le multiple est encore plus élevé. Mais il n'y a pas de règle. C'est donc, prenez le BE, un multiple moyen et couramment accepté, c'est 7 ou 8 pour une petite structure. Si elle a un très fort potentiel, on peut essayer de la vendre à 9. Et si les conditions économiques générales sont bonnes et que le potentiel de la société est bon, on peut monter à 10, 11, etc. Mais il n'y a pas de règle. Et je pense que ce sur quoi tout le monde se mettra d'accord, tous les investisseurs jugeront, plus que le simple multiple, les chiffres, c'est encore une fois la personnalité de l'entrepreneur et la confiance qu'on peut lui faire pour mener à bien son projet à terme.
Bon, ça veut dire quand même qu'il y a... La personnalité, c'est aussi une bonne partie de chance, finalement. Est-ce que ça tient beaucoup, la chance, dans la réussite ?
Je pense que la chance joue un rôle important, pas seulement dans les start-up, mais même dans une carrière professionnelle réussie, dans le journalisme, dans l'édition, dans les grandes sociétés. Il faut à la fois être très bon et avoir de la chance. Et si on est bon sans chance, il ne se passe rien. Si on a de la chance et qu'on est mauvais, ça ne dure pas longtemps.
Une start-up qui a déjà 5 ans nous a écrit aujourd'hui. 5 ans, ça peut être long, en tout cas pour une entreprise innovante. C'est Laetitia qui nous a écrit. Elle cherche aujourd'hui des financements pour développer sa start-up. Et elle se demande si elle doit privilégier plutôt des fonds d'investissement, du capital investissement, ou si elle doit préférer plutôt les solutions classiques de financement offertes par les banques. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ?
Je pense que... Il faut savoir que les fonds d'investissement imposent une détention de l'investissement en moyenne de 7 ans. Parfois, ceux qui investissent à titre personnel dans un fonds doivent, pour bénéficier de l'aide de l'État, conserver l'investissement pendant 5 ans. Donc, qui dit fonds d'investissement pour une raison réglementaire ou simplement parce que c'est le mode de fonctionnement de l'intermédiaire financier, il faut accepter de laisser longtemps l'investissement en place. Si on a affaire à une banque traditionnelle, on peut avoir recours à des emprunts sur des durées plus courtes. Mais finalement, une durée un peu longue, ce n'est pas forcément une entrave quand on bâtit quelque chose. Sauf aux États-Unis où on vend à des multiples très élevés uniquement sur un concept. En France quand même, en Europe, on vend parce que la société s'est développée et on ne fait pas un développement avec un tour de magie en 2 ans. Et ça prend un peu plus de temps.
On a encore 3 minutes pour quelques questions, Thomas.
Ça veut dire que c'est bloqué pendant un temps quand un fonds d'investissement décide de participer à une start-up ? Il y a un délai.
Non, le fonds d'investissement, lui, peut quitter la start-up.
Quels sont les critères pour pouvoir quitter justement la start-up pour le fonds d'investissement ? Quand il veut, il peut décider de reprendre sa part ?
En général, il trouve un remplaçant. Il vient avec un de ses collègues pour qui l'investissement dans la start-up correspond plus aux exigences du moment dans sa gestion de portefeuille.
Donc c'est comme ça que on peut reprendre en tout cas ses parts. Donc Laetitia pourrait privilégier les solutions classiques proposées par les banques, mais les banques parfois sont un peu plus frileuses dans la tech, en tout cas dans les start-up. On parle d'innovation, on parle parfois de risque.
Oui. Faut pas non plus exagérer la frilosité des banques, mais c'est sûr que dans les fonds de capital investissement tels qu'ils existent aujourd'hui en France, il y a des spécialistes de la tech. Donc si t'as une start-up dans la tech, non seulement ça apporte du financement, mais ça peut être de la smart money, c'est-à-dire que ça peut apporter des bons conseils sans entraver la liberté d'action du dirigeant.
Donc c'est tout à fait envisageable. On a un de nos auditeurs qui souhaite se reconvertir. Il est aujourd'hui dans les ressources humaines. Il souhaite lancer sa propre start-up, une plateforme de paysagistes. On ne va pas rentrer dans les détails de son projet personnel à lui, mais globalement, est-ce qu'on prend un grand risque si on se lance dans une start-up, dans un secteur, un milieu duquel on n'est absolument pas issu, dans lequel on n'a pas d'expertise ? Est-ce que ce projet peut rester crédible ?
Je pense que c'est un risque additionnel, mais j'ai de nombreux exemples de personnes qui ont créé avec succès un site ou une start-up dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas du tout. Je prends par exemple, c'est un des personnes que je décris dans mon livre « Le courage de l'audace », Lucien Bess, qui a créé Shipeo. C'est un site SAS de transport routier. Il ne connaissait absolument pas le transport routier. C'est simplement à partir d'une analyse macroéconomique qu'il est parti du haut et qu'il est descendu pour identifier cette niche, d'ailleurs, qu'il n'a pas immédiatement identifié, mais par itération, il y est arrivé, et il connaissait strictement rien au transport routier. Mais il y a le cas tout à fait opposé, où la start-up...
Ça s'appelle le flair, ça aussi, quelque part, voilà. Bien sûr.
Voilà. Il y a le cas opposé, où la start-up est créée parce qu'on est passionné par un domaine, ou parce qu'on le maîtrise bien. Je pense à Frishti, Quentin Vacher. Lui, il avait une obsession qui était de faire en sorte que les Français puissent bien manger sans y passer trop de temps. Ah, il apprécie la bonne nourriture. Il n'a pas créé uniquement pour faire de l'argent sur la nourriture. Il l'a créé parce qu'il avait un idéal de bien manger.
Donc, on a du flair, on a de la passion, mais on a aussi parfois la maîtrise de la technologie aujourd'hui. C'est ça, c'est possible de lancer sa start-up si on a la maîtrise des données, puisque c'est là-dessus que se portent la plupart des start-up de la tech.
Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer cet aspect connaissance de la tech. Vous avez un concept, si vous ne maîtrisez pas la technologie, si vous n'êtes pas ingénieur, vous pouvez facilement créer en vous adossant, en créant avec un associé qui serait votre CTO et qui serait un ingénieur et qui maîtriserait tous les data, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de sociétés qui reposent sur un binôme avec un peu plus que l'autre, mais souvent un peu plus que l'autre, c'est celui qui a la vision et l'autre, c'est celui qui peut mettre en œuvre et en place la technologie pour y arriver.
Et bien voilà, pour l'ensemble de ces questions, à quoi tient le succès d'un entrepreneur ? Pour y passer 4 heures, c'est presque un sujet de bac, hein, Pierrot Sûr, là, pour le coup.
Oui, c'est pas facile à savoir.
Il y a de quoi disserter, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas,
Pierrot Sûr.
Merci beaucoup, Pierrot Sûr, président fondateur du Club Ivy, avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. À très vite, avec plaisir. Midi 44 sur BFM Business. On est encore là un petit quart d'heure, hein, au salon BFM Patrimoine. Thomas, on marque une pause et puis...
Et dans un instant, on recrute.
Eh oui, comme tous les jours. À tout de suite.
À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Allez, midi 46 de retour ici au Carrousel du Louvre, 4e édition du salon BFM Patrimoine. Et nous, on recrute comme tous les jours ici, Thomas.
On recrute, Guillaume, avec Gilles Artaud. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Gilles, bienvenue.
Directeur général de Ménimore, le nouveau Ménimore issu de la fusion que vous avez annoncé en février dernier. On est dans la gestion numérique de patrimoine. C'est un domaine qui... a pris de l'ampleur ces dernières années, en particulier.
Oui, tout à fait. C'est un domaine où les professionnels ont besoin d'être épaulés pour gagner en efficacité, gagner en sécurité dans leurs recommandations aux clients. Et c'est toute notre raison d'être que de leur faciliter la vie et leur faire gagner du temps.
Et alors justement, vous êtes là pour recruter. Comment vous différenciez aujourd'hui dans ce secteur qui a de plus en plus d'acteurs ?
Alors, on essaye évidemment d'être une entreprise accueillante. C'est une première façon de se différencier. Mais surtout, en fait, on a la particularité d'avoir un mix de profils entre la tech et le métier assez unique sur le marché. Donc, c'est assez enrichissant à la fois pour les gens qui viennent du métier et pour les gens qui viennent de la tech d'avoir ce brassage. Typiquement, sur le métier, on va avoir des agents patrimoniaux, des gens qui ont exercé dans le conseil patrimonial, mais aussi des gens qui ont exercé comme notaire. Donc, tout ça fait un brassage assez stimulant pour des gens de la tech qui sont un peu intéressés par le métier.
Comment dire, vous recyclez des notaires, c'est possible.
Oui, c'est possible.
Ouais.
Même après 10-15 ans.
Après 10-15 ans, voilà.
Oui, tout à fait.
La gestion du patrimoine est liée à la maîtrise de la technologie. 60 employés aujourd'hui, vous en recrutez 9. C'est très précis, c'est un nombre particulier de postes qui sont ouverts. Ça veut dire que vous recherchez des talents dans quel domaine et quel poste aujourd'hui ?
Alors, on en recherche d'une part dans la partie produit, donc ce qu'on appelle des product owners, c'est des responsables produits qui vont avoir la responsabilité d'une ou plusieurs applications. C'est un métier un peu au croisement entre la tech, le métier et le marketing. Des gens qui vont écouter le marché, écouter les clients pour faire évoluer les produits.
Ça veut dire qu'ils doivent forcément avoir des notions de gestion de patrimoine. C'est des gens qui sont issus du milieu ou ça peut être des profils un peu plus...
Alors, jeunes. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt des profils de jeunes ingénieurs avec une capacité de conceptualisation assez forte, puisqu'on est sur des métiers assez techniques. Et en revanche, on souhaite qu'ils aient envie d'apprendre un peu le métier.
Que vous leur transmettez.
Qu'on leur transmet.
Vous les formez en interne. Vous avez
exactement, on forme en interne. Oui, tout à fait. On a une période d'intégration assez, assez poussée avec les experts métiers qui apportent effectivement leurs compétences. Ouais. Et puis un coaching assez régulier pour la montée en compétences.
Ça dure combien de temps l'intégration et le coaching en question ? C'est une période, ça peut...
C'est une intégration, c'est 6 à 9 mois.
6 à 9 mois.
6 à 9 mois pour apprendre le métier, donc.
Et toutes ces subtilités.
Pas complètement. On a le vernis nécessaire. Ouais. Voilà.
Donc, product owner, les autres métiers sur lesquels vous avez le plus de besoins dans l'immédiat ?
Alors, les développeurs, sans surprise.
Eh oui.
Un métier où il est compliqué de recruter aujourd'hui, tant la concurrence est forte. Donc parmi les éléments de différenciation, en fait, on propose un cadre de travail avec pas mal de télétravail, 2 à 3 jours par semaine. Sinon, sans trop rentrer dans la technique, c'est des profils plutôt de full stack, donc des gens qui sont capables de faire du front et du back, et sur des technos de type PHP, MySQL, voilà, pour faire simple.
Ben voilà les 9 postes que vous mettez sur le marché du côté de Manymore. Comment est-ce qu'on postule, Thomas?
Pour postuler, vous avez toutes les offres. Je suis allé vérifier ce matin sur la plateforme Welcome to the Jungle. Manymore en anglais, ça s'écrit pour ceux qui nous écoutent à la radio, M-A-N Y-M-O-R-E. Vous pouvez aussi écrire à Mathieu, le DRH dont je ne m'amuserai pas à prononcer le nom de famille, Krusinski. Vous pouvez bien sûr retrouver les liens, l'adresse sur notre compte LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business.
Et bah, tout ça est enregistré. Merci beaucoup Gilles.
Merci.
Merci d'être passé nous voir aujourd'hui dans 60 minutes business. Gilles Artaud, le directeur général du nouveau Manymore, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup Gilles d'être passé nous voir dans...
Merci à vous deux.
Dans 60 minutes business, midi 51, je vous redonne les modalités, mais vous les connaissez évidemment, pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche comme tous les jours, hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, bien sûr, c'est totalement gratuit. Thomas, on continue de recruter ici en direct au Carrousel du Louvre.
On recrute dans le notariat, au sommet BFM Business Patrimoine, ouais, avec Thomas Prudhomoz. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Bonjour Thomas, bienvenue.
Notaire associé à KL Conseil. KL Conseil qui existe, une étude depuis 1982.
Depuis plus longtemps, mais dans son organisation actuelle, oui, c'est 1982.
Plus longtemps, donc on peut
depuis
parler.
Depuis 1643, en fait.
Vous étiez là au début, non?
Des jeunots, j'étais là au début.
Des jeunots, donc, aujourd'hui, voilà. Qui cherchent à recruter pour pouvoir intégrer, puisque vous continuez de vous développer.
Exactement.
Avec les années, aujourd'hui, c'est quoi vos clients? Pour qui est-ce que vous travaillez? Quels sont les services que vous proposez?
Alors, nous, on est une étude qui s'identifie à Paris de manière particulière parce qu'on est une des seules études de ce gabarit qui garde un profil généraliste. Et donc, on a des clients qui sont à la fois des sociétés du CAC 40, des investisseurs immobiliers type promoteurs, compagnies d'assurance, des banques, mais également des particuliers, des familles et des chefs d'entreprise.
De l'immobilier, du patrimoine.
Exactement.
Donc, chez KL Conseil, aujourd'hui, vous êtes 50 employés, 6 postes ouverts. Vous recrutez 6 clercs, 6 notaires?
Alors, on recrute des futurs notaires et une claire. Donc, on a 3 notaires stagiaires qui sont à l'image de la diversité dans notre étude, à savoir que on va avoir un notaire stagiaire qui va s'occuper plus de droit patrimonial et droit de la famille.
Ouais.
Un autre qui va s'occuper de l'immobilier des particuliers et l'immobilier d'investissement des particuliers. Et un dernier qui va être de l'immobilier institutionnel. Donc eux, des notaires stagiaires, c'est qu'ils apprennent à l'étude en même temps qu'ils finissent leurs études pendant 2 ans et en CDI. Et ensuite, on va avoir un notaire assistant qui a un diplômé notaire en immobilier des particuliers, un notaire salarié en institutionnel et enfin une assistante en institutionnel.
6 postes ouverts chez KL Conseil aujourd'hui. La législation évolue particulièrement sur la transmission. C'est un travail en permanence que vous devez faire de veille sur l'évolution des textes?
Exactement, c'est un travail de veille aussi bien pour nous et nos collaborateurs afin qu'on soit toujours à la pointe de l'évolution législative et qui peut parfois changer après coup et après avoir pris des décisions.
Ça, est-ce que ça mobilise par exemple chez vous une personne à temps plein ou ça mobilise une partie du temps de chacun finalement? On va surveiller, être en veille comme ça continuellement sur l'évolution.
Alors, ça mobilise une partie du temps de chacun parce que pour être un bon juriste, il faut que chacun ait les bons réflexes quand il est dans le cas de figure qui amène à ces questions.
Ouais, quand il est sollicité par un de vos clients, il faut qu'il sache immédiatement répondre et anticiper peut-être les pièges à éviter, les erreurs à ne pas faire et les meilleurs conseils à apporter.
Voilà, et c'est pour ça qu'on propose dans chaque spécialité à nos collaborateurs des réunions régulières mensuelles dans lesquelles certains sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle à leurs collègues en travaillant sur des sujets particuliers. Et puis, tout le monde partage finalement les informations qu'ils ont développées au cours de la période.
Vous êtes installé à Paris, rue de la Bourse, aujourd'hui. Est-ce qu'il faut dépoussiérer encore l'image du notariat pour attirer ces 6 postes que vous ouvrez chez vous?
Est-ce qu'elle est poussiéreuse déjà l'image de la tarte?
C'est la question que je vous pose.
Elle est déjà bien dépoussiérée, je pense, avec tous les moyens technologiques qu'on a mis en place et pour lesquels on est en avance sur pas mal de professions juridiques, notamment avec l'acte électronique, la possibilité qui a été accélérée avec le Covid de recevoir des actes simultanément d'un côté à l'autre de la France.
Oui.
Et puis après, au point de vue du Conseil, les notaires de plus en plus ont pris de l'essor dans le développement du conseil autour de leurs actes.
Et l'innovation.
Et l'innovation, évidemment. 6 postes à pourvoir, donc, chez KL Conseil. Comment est-ce qu'on postule, Thomas?
Pour postuler, bien, on poste directement la question à Jean-Michel Chaubert. Jean-Michel Chaubert, à l'adresse recrutement au pluriel @klconseil.com. On vous met, bien sûr, le lien, l'adresse mail et le lien pour KL Conseil sur notre compte LinkedIn, notre compte Twitter et notre page web BFM Business.
Et bien, on vous souhaite de trouver les profils que vous recherchez, Thomas. On espère en tout cas y avoir contribué humblement. Vous nous tenez au courant, évidemment.
Et bien, bien sûr, et merci beaucoup.
Merci d'être passé nous voir aujourd'hui sur le plateau de 60 Minutes Business. Thomas Prudhomos, donc notaire associé, KL Conseil avec nous dans 60 Minutes Business. Merci beaucoup, Thomas. À très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, 12h55. Demain, on est de retour dans nos studios parisien du 15e. Qu'est-ce qu'on raconte demain, Thomas ?
Comment éviter la fatigue liée au travail, la surcharge mentale que l'on peut ressentir, qui est parfois inévitable, faut-il faire plus de pauses ? On en parle avec notre expert qui sera sur le plateau, un expert en sciences cognitives. La science peut nous aider.
C'est un gros sujet. Fin de saison, c'est un sujet pour tout le monde, évidemment. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve avec vous demain, 12h30, 60 Minutes Business, dès midi, bien sûr, pour dérouler ensemble l'actualité économique. Nicolas Dose arrive dans un instant, le replay des experts. On se retrouve demain, midi, pour nouvelles aventures. Bonne journée, à demain.
60 Minutes Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.